Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Même pendant ce confinement et même si les salles sont fermées, le cinéma continue d'exister. Aujourd'hui, on va d'ailleurs se poser une question. Comment représenter les Noirs sur grand écran alors que sort le DVD du film Tout Simplement Noir? Vous l'aviez peut-être découvert en salle en juillet dernier. Est-ce que les choses sont en train de changer? On se rappelle qu'en 2018, 16 comédiennes noires montaient les marches à Cannes, menées par Aïssa Maïga, qui avait publié le livre Noir n'est pas mon métier. On se rappelle aussi du discours de Maïmouna Doucouré au César. Bref, vraie prise de conscience, va-t-on vers un changement durable dans le milieu du cinéma? Ce sera l'objet de notre récit dans quelques instants. 14h30, les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est le dessinateur, auteur, cinéaste Johan Sfar qui nous racontera ses souvenirs de cinéma. Le film qui le fait le plus rire ou le plus pleurer, son film honteux, la bande originale qui a marqué sa vie aussi. Et puis juste après, on accueillera nos critiques pour débattre des dernières sorties sur vos plateformes ainsi qu'en VOD, DVD. Au programme aujourd'hui, le remake de Rebecca sur Netflix, tout comme La vie devant soi, que vaut cette nouvelle adaptation du roman de Romain Gary. Et puis on l'attendait, il est là, le premier film qui se passe pendant le confinement. C'est Connecté, disponible sur Amazon Prime Video. On vous dira ce que ça vaut. Voilà pour le programme de Clap et tout de suite donc notre récit consacré au noir au cinéma.
Europe 1. Le récit.
Dès les années 1900 et l'invention du cinématographe Lumière, les Noirs sont présents sur grand écran, et pas sous leur meilleur angle. Rappelez-vous, Foutite et Chocolat. Foutite, le clown blanc, et Chocolat, le clown noir, l'imbécile, celui qui se prend des gifles, et qui sert en fait à valoriser le clown blanc. En 2016, Roche Dizem consacrait un film à cette histoire, tout simplement titré Chocolat.
Toi, t'es le clown blanc, c'est ça?
Oui, toi, t'es l'Auguste, le pitre, celui qui fait l'idiot. D'habitude, en scène, c'est l'un ou l'autre, jamais les deux en même temps.
Faire chacun son tour?
Non, justement, mon idée, c'est de les associer. Pour la première fois, on les ferait jouer en duo. Sur la piste, on deviendrait les deux faces d'une même pièce, totalement différents, mais indissociables.
Indissociables?
Unis, comme ça.
Et pour incarner ce clown Chocolat, Omar Sy, il en parlait au micro d'Europe 1.
C'est pour ça que j'ai accepté le film, c'est réparer une forme d'injustice. Quand on a fait quelque chose comme ça, qui est assez historique, assez fort, pour un descendant d'esclaves arriver où il est arrivé lui, arriver à faire ce qu'il a fait artistiquement et son parcours d'homme, ça mérite d'être raconté. Et je trouve ça injuste que pendant un siècle, on ait complètement oublié.
Ce dont il faut se souvenir, c'est qu'à la naissance du cinéma, la France est en pleine expansion coloniale. En 1900, le domaine colonial français est le deuxième plus grand d'Europe, après celui du Royaume-Uni. Le cinéma est donc, une nouvelle fois, le reflet de la société et des croyances de l'époque, aussi triste soit-elle. On en est encore à l'époque du chocolat avec un noir sur l'emballage et ce sous-titre « Battu et heureux » ou du « Y'a bon banania ». En 1936, se tiendra même à Paris l'exposition coloniale internationale. Alors on va faire un bond dans le temps pour s'intéresser au combat des acteurs et réalisateurs noirs. En France, on pourrait le dater à l'année 2000, lorsque les metteurs en scène Luc Saint-Éloi et Calixte Beyala s'emparent de la scène des Césars pour réclamer plus de diversité devant un Alain Chabat en maître de cérémonie pour le moins interloqué.
Imaginez dans ce pays, dans tous les cinémas, des écrans qui projetteraient exclusivement des histoires entre noirs pour des noirs à l'exclusion de toute autre couleur. Et vous, chers compatriotes, imaginez que vous soyez absent. Invisible. Imaginez seulement, mais rassurez-vous, ce rôle d'absent, c'est nous qui l'interprétons.
Aux États-Unis, c'est Chris Rock qui joue les maîtres de cérémonie des Oscars et qui souligne lui aussi le manque de noirs dans les nommés, appuyé par Joaquin Phoenix, qui encore en février dernier, lorsqu'il reçoit le BAFTA du meilleur acteur pour son interprétation du Joker, prend la parole.
Je me sens très honoré et privilégié d'être ici ce soir. Et j'en suis profondément reconnaissant. Mais je dois dire que je me sens également en conflit parce que tant de mes collègues acteurs qu'ils méritent n'ont pas le même privilège. Je pense que nous envoyons un message très clair aux personnes de couleur qui est « Vous n'êtes pas les bienvenus ici ». Je pense que c'est le message que nous envoyons aux personnes qui ont tant contribué à notre industrie et nous en bénéficions tous. Je pense que nous devons vraiment travailler dur pour vraiment comprendre le racisme systémique.
En fait, depuis les années 2000, les choses bougent. Trop lentement sûrement, mais elles bougent. Pourquoi ? D'abord sans doute parce que le monde entier consomme de la musique et plus largement de la culture made in black. Prince, Michael Jackson, Eddie Murphy, le prince de Bel Air. La France Black Bamber remporte aussi la Coupe du Monde de foot 1998. Et les Noirs commencent à accéder à de vrais rôles au cinéma, même si ce sont souvent les mêmes types de rôles. L'actrice Aïssa Maïga en parlait au micro d'Europe 1.
Il y a beaucoup de stéréotypes récurrents. La femme noire est soit la panthère, la lionne. Et sinon, quand elle prend de l'âge, voire de l'embonpoint, elle devient la mama en boubou avec un accent. Et ces questions de diversité, elles sont très importantes.
Même problème du côté des hommes, comme le raconte l'acteur-réalisateur Lucien Jean-Baptiste dans le documentaire « Où sont les Noirs ?» signé Rokhaya Diallo, que nous recevrons tout à l'heure.
Souvent, les rôles qui étaient un peu caricaturaux, stéréotypes, c'était le noir de banlieue, le sans-papier... Et moi, j'arrivais, bonjour, avec mon petit timbre de Gaulois, là. Et souvent, hein, on m'a dit, tu peux pas le faire un peu plus black ? Je disais, mais là, je sais pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ben non, je vois pas.
Écoutez maintenant ce qu'en dit Noom Diawara, popularisé pour son rôle de gendre dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?
Alors, les premiers rôles que j'ai eu quand j'ai commencé, je m'en souviens, parce que la première fois, j'étais en prison. La deuxième fois, j'étais un sans-papier. Et la troisième fois, j'étais directeur d'une boîte de nuit antillaise. Bon, c'était... Voilà, c'est mes trois premiers rôles. Mais mon agent me l'avait dit. Il m'avait dit, écoute, je vais pas te mentir, il n'y a pas beaucoup de rôles pour vous les Noirs. Il y a beaucoup de séries policières en France, donc tu seras ou un suspect ou un coupable. Tu vas commencer comme ça au début. Mais non, ça s'arrête pas. C'est tout le temps la même chose.
Et la conséquence, c'est donc que les jeunes Noirs qui rêvent de cinéma n'ont pas de modèle auquel s'identifier. Que ce soit de modèle d'acteur ou de modèle de grand rôle d'ailleurs. Le cinéma leur apparaît donc comme un monde inaccessible. Alors c'est vrai que depuis quelques années, les choses semblent changer. Petit à petit, en 2012 par exemple, c'est Omar Sy qui est choisi pour interpréter le rôle de Driss dans Intouchables, adapté d'une histoire vraie, où Driss était en fait Abdel, un maghrébin. Et là, surprise, Intouchables dynamite le box-office et frôle les 20 millions d'entrées.
Vous avez des références ?
Ouais, des références, ouais, j'en ai. Je sais pas, Cool and the Gang, Person on Fire, c'est de bonnes références, ça, non ?
Je connais pas.
Non, si vous connaissez pas, c'est que vous y connaissez rien en musique.
Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical, même si je connais pas votre soul, je sais pas quoi.
Non, Cool and the Gang.
Et vous ? Vous connaissez Chopin, Schubert, Berlioz ?
Vous, là, ça m'étonnerait que vous connaissiez Berlioz.
Pourtant, je suis un spécialiste.
Vous connaissez qui, là-bas ? Quel bâtiment ?
Non, mais mon vieux, Berlioz, avant d'être un quartier, c'est un compositeur célèbre.
C'est une vanne. Je sais qui c'est, Berlioz. Et je vois que l'humour, c'est comme la musique. Vous y connaissez rien, en fait.
Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'à l'époque, on parle plus du fait que ce film fait évoluer le regard sur le handicap que du fait que c'est un acteur noir qui tient l'un des deux rôles principaux. Ces dernières années, plusieurs films et comédies mettant en scène que des noirs ont très bien marché au box-office, en tête desquels Black Panthers, un film de super-héros.
Moi, Zuri, fils de Badou, je vous présente le prince T'Challa, la panthère noire, l'issue. De ce combat rituel sera soit la reddition ou la mort.
Black Panthers qui est un succès mondial. En France, Lucien Jean-Baptiste réalise Première étoile, où il a déjà tes yeux, l'histoire d'un couple de Noirs qui adopte un enfant blanc. Et c'est là qu'on en vient à Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax qui sort en DVD. L'histoire de JP qui décide d'organiser la première marche de protestation noire en France et va faire appel à de nombreuses personnalités qui jouent dans le film leur propre rôle. Fari, Claudia Tagbo ou Fabrice Eboué.
Je suis noir.
Grand.
Voilà. Je suis noir.
Martin Luther King.
Je suis nègre.
Malcolm X.
Je suis un putain de nègre.
C'est ça.
Il faut qu'on soit soudés.
Ta marche, c'est une initiative de dingue.
Quelle marche ?
Les blancs sont interdits à ta marche.
Ils sont pas interdits.
Pas interdits, mais c'est pas conseillé.
Ils sont pas tous les gros à frapper.
Ouais. Non, ils sont pas du tout.
Mais il y aura pas une bonne ambiance.
Voilà,
je vais faire une marche moi de mon côté avec les Indiens.
Soirée entre nous.
Vous niquez votre marche de renom.
L'idée du film, au-delà de faire rire, bien sûr, c'est de faire réfléchir le spectateur à cette question de la diversité. Comme l'expliquaient les deux réalisateurs au micro d'Europe 1.
C'était juste pour dire qu'il faut dire noir et c'est pas un gros mot et on peut en parler, on peut se nommer. Même si finalement le film prouve que ça veut rien dire, un noir et un blanc, parce que moi je suis noir, Fabrice Eboué est noir, mais finalement on n'a rien en commun. Oui. Mais le film, voilà, met les choses sur la table, c'est des questionnements qu'on pose sur la table. On ne donne pas de morale, on veut que les gens rigolent, on veut que les gens s'amusent, et qu'à la fin, si ça peut susciter le débat, et bah bingo.
Qu'on arrête de parler de communauté noire aussi, tu vois. Comme JP l'a dit à plusieurs reprises, quand on voit les petits mouchoirs au camping, on ne dit pas que c'est un film sur la communauté blanche, donc je ne vois pas pourquoi on dirait que ce film, c'est un film sur la communauté noire.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer, notamment aussi grâce aux plateformes comme Netflix, qui imposent une remise en question à cette bonne vieille industrie du cinéma. Mais est-ce suffisant ? Ne faut-il pas imposer des quotas de la discrimination positive, comme le CNC est en train de le faire pour les femmes dans le cinéma ? Toutes ces questions, on en parle dans un tout petit instant avec notre invitée, Rokhaya Diallo, réalisatrice, éditorialiste et militante. C'est juste après James Brown dans Clap. On écoute Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. A tout de suite. Say it loud, I'm black and I'm proud. Ça fait du bien un peu de James Brown dans Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. On se retrouve dans un tout petit instant avec Rokhaya Diallo pour poursuivre notre réflexion autour de la représentation des Noirs sur grand écran.
Clap, Mathieu Charrier.
Et on poursuit donc notre récit aujourd'hui dans Clap consacré à la représentation des Noirs au cinéma. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir maintenant Rokhaya Diallo. Bonjour.
Bonjour.
Réalisatrice, éditorialiste, militante. Ça va, je vous présente bien. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres titres à rajouter.
Ça me suffit.
Bon, ça va, c'est déjà bien. Alors d'abord, première question. Est-ce que vous pensez, j'espère que vous allez me répondre oui, mais est-ce que vous pensez que les choses évoluent dans le bon sens ? Qu'aujourd'hui, les Noirs, petit à petit, sont mieux représentés au cinéma ?
Oui, évidemment, si on se place sur un temps long et même sur la dernière décennie, on peut dire que vraiment, il y a eu un accélérateur après le César de Omar Sy en 2012. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la situation qui était celle d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans. Malgré tout, si on fait un micro-trottoir dans la rue et qu'on demande aux gens d'identifier quelques noms d'acteurs et encore plus d'actrices noires, les gens quand même peinent à sortir au-delà des quelques visages qui sont déjà connus et très 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 identifiés du grand public.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'Omar Sy, personnalité préférée des Français, etc. Mais est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt ? C'est-à-dire qu'il y a lui, effectivement, peut-être Lucien Jean-Baptiste, on en parlait tout à l'heure, mais il n'y en a pas non plus beaucoup.
Bah disons que Omar Sy effectivement jouit d'une notoriété exceptionnelle hein, que pour un acteur qui est vraiment particulièrement importante, mais qu'il avait déjà acquise notamment avant même d'avoir cette reconnaissance dans le domaine du cinéma. Il y a Lucien Jean-Baptiste, il y a Aïssa Maïga également, mais c'est vrai que déjà quand on va du côté des femmes, on a plus de mal à associer des noms, enfin le grand public en tout cas, plus de mal à associer des noms avec des visages, même s'il y a des visages qui sont très récurrents, et c'est ça qui est compliqué en fait. C'est vrai que je pense qu'on a beaucoup moins de difficultés à nommer des acteurs noirs américains américain qu'à nommer les acteurs noirs français, des acteurs et des actrices. Donc c'est aussi ça qui interroge, parce que c'est pas normal qu'on ait plus de facilité à dire Denzel Washington, Will Smith, Whoopi Goldberg ou Viola Davis que des gens qui ont une proximité culturelle avec nous, qui doivent intervenir dans nos propres cinématographies.
Et pourquoi, Rokia Diallo, pourquoi en France on est si réticent à avoir des noirs qui jouent autre chose que des rôles caricaturaux?
Bah, je pense qu'il faut se poser la question de qui fait les films en France. C'est un long circuit et ce qu'on voit sur l'écran, c'est le résultat d'un processus qui est beaucoup plus long que celui de simplement projeter des personnes sur petit ou grand écran. Donc la question, c'est quels récits sont produits, qui imagine les récits auxquels nous avons accès, qui les finance et les considère comme crédibles, légitimes, et puis après, qui réalise et puis qui va faire le casting. Et donc je pense que cette question-là, c'est la question de la pluralité des regards. Et je pense que les personnes qui ont mis en scène des personnes noires de la manière la plus complexe ou la plus humaine, on va dire, souvent ont été, pas uniquement, fort heureusement, mais souvent ont été des réalisateurs ou des réalisatrices noires. Je pense par exemple à Lucien Jean-Baptiste, je pense aussi à Abdelmalik, hein, qui a fait son premier film Calam Bézit la France il y a quelques années. Donc c'est vrai qu'il y a cette question-là qui se pose, c'est que je pense qu'il y a une difficulté dans le cinéma français à sortir des cercles déjà identifiés. Et c'est la même façon que il n'y a pas tant de femmes réalisatrices que ça qui obtiennent des budgets conséquents pour faire des films. Donc pour moi, c'est une question d'inclusion, c'est une question de multiplicité des regards qu'il faut poser au-delà de la question de la représentation des personnes noires.
Et justement, vous parlez des femmes, c'est ce que j'allais vous demander. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CNC met en place dans son système de financement des quotas, notamment pour la partie technique des films. Vous pensez qu'il faut en arriver là aussi pour les personnes, même si j'élargis de couleur au sens très large ?
Bah, je pense qu'en tout cas, il faut prendre des mesures volontaristes. Et le CNC, on est venu à prendre ses dispositions grâce au collectif 50-50, qui est un collectif, le collectif 50-50, qui est un collectif de femmes dans le monde du cinéma, donc qui sont soit actrices, soit techniciennes, soit réalisatrices, etc., etc. Et je pense que c'est aussi par l'action des personnes qui sont engagées dans le domaine que les choses vont bouger. Il y a eu l'initiative Noir n'est pas mon métier, il y a 2 ans, qui avait été menée par Aïssa Maïga et avec elle 15 autres comédiennes.
Pour rappeler, elle dénonçait notamment le fait qu'on leur confiait souvent des rôles très très caricaturaux, et quand on appelait des noirs, c'était vraiment pour jouer le noir tel qu'on l'imaginait il y a des décennies.
Exactement. Bah pour les femmes noires, c'est encore autre chose. C'est un corps qui est très sexualisé, donc énormément de rôles de prostituées, de femmes extrêmement félines. Hein. C'est ce qui apparaît sur les scripts, ce que disait Sonia Roland lorsque je l'ai interviewée. Donc des choses qui sont pas très. C'est-à-dire que c'est pas un problème de jouer ce type de rôle à partir du moment où on a des options diverses, mais c'est pas encore le cas. Et je pense que on n'est pas forcément prêt en France pour mettre en place des quotas. Je sais que culturellement c'est compliqué, mais en même temps, même Maimona Interman, qui était au CSA, a dit qu'elle voit pas d'autre solution parce que ça bouge pas suffisamment rapidement. Et c'est vrai qu'il y a un gros décalage entre ce qu'on peut voir dans la rue, la multiplicité des récits du quotidien des Français, et ce qu'on voit sur écran, où en fait on n'arrive pas à projeter un personnage lambda en fait qui serait noir ou d'origine asiatique, hein, c'est aussi quelque chose, je pense, dont on doit parler, qui pourrait tout simplement être le héros ou l'héroïne d'une comédie romantique absolument banale.
Et justement, vous parlez des personnes d'origine asiatique, c'est sans faire un classement, mais vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, les Maghrébins sont mieux représentés au cinéma que les Noirs ?
Je ne sais pas s'ils sont mieux représentés. Disons qu'il y a une représentation qui est peut-être plus ancienne et plus plurielle. Après, c'est vrai que le cinéma a beaucoup bougé sous l'impulsion de personnalités. Encore, il faut parler des individualités. Je pense que Jamel Debbouze a fait beaucoup. Il a fait beaucoup non seulement pour faire émerger une nouvelle génération de comédiens et de comédiennes de toutes origines. Donc le Jamel Comedy Club, pour le coup, c'était pas uniquement des personnes d'origine maghrébine, mais il a mis aussi, il a produit des films. Je pense à Indigène, je pense à La Marche, qui raconte aussi la présence des personnes d'origine maghrébine en France. Donc c'est vrai que l'engagement de Jamel Debbouze a nourri une représentation certaine, mais c'est vrai qu'en même temps, quand on pense aux acteurs et aux actrices d'origine asiatique, on pense à Lindan Pan qui a eu un César il y a une quinzaine d'années, ou à Frédéric Chau qui a écrit Made in China, mais c'est vrai que c'est une représentation qui est extrêmement pauvre. Et là, je pense qu'il y a encore un pas à faire, il y a vraiment quelque chose de volontariste à mettre en place pour que leur représentation soit enfin juste et sortie des clichés.
Et pourtant, si on regarde les chiffres, justement, concernant les Noirs, si on regarde Black Panther au niveau mondial, si on regarde même tout simplement Noir, justement, qui nous intéresse aujourd'hui quand il est sorti en salle, malgré le contexte qu'on connaît, il a bien marché. Donc c'est des films, je dirais, qui attirent au-delà des communautés pour faire de tels scores.
Bah bien sûr, bah de la même manière que les personnes noires sont toujours allées au cinéma pour voir sur écran des personnes blanches, il n'y a pas de raison que l'inverse ne se produise pas. Les récits sont tous universels et je pense que voilà, Marvel a réussi à faire d'un héros qui est situé sur le continent africain, qui est le roi d'une nation africaine, a réussi à en faire un héros universel parmi les Avengers parce que l'histoire est forte et je pense qu'il faut faire confiance au récit. Et je crois qu'on s'est toutes et tous identifiés à des récits littéraires de personnes qui étaient situé à l'autre bout du monde parce que les récits étaient bien menés, donc il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas au cinéma. Mais je crois qu'il y a beaucoup de clichés encore. On a beaucoup, beaucoup dit dans le monde de la télévision que les gens n'étaient pas prêts. Je me souviens qu'on disait ça il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années. Et Harry Roselmack, quand il est venu présenter les 20h, c'est devenu le journaliste préféré des Français. Parce qu'en réalité, les Français sont beaucoup, beaucoup moins fermés que ce que projettent sur eux parfois les producteurs et les gens qui produisent des contenus. Donc c'est bien qu'il y ait un Jean-Pascal Zadi, c'est bien qu'il y ait aussi une Maïmouna Doucouré qui a fait ce film qui s'appelle Mignonne, qui a gagné un prix à Sundance, et d'autres qui vont arriver parce que je crois que les gens ont juste envie de voir de belles histoires. Et à partir du moment où les histoires leur parlent, eh bien, ils vont s'identifier aussi bien à Bruce Lee que à effectivement Captain America ou d'autres personnes d'origines diverses.
Et en même temps, c'est triste à dire, mais quand il y a eu la rumeur Idris Elba pour remplacer Daniel Craig dans le rôle de James Bond, il y avait eu tout plein de remarques racistes, notamment sur les réseaux sociaux.
Tout à fait, énormément de remarques racistes. Mais on voit qu'il y a une résistance et il y a une violence. Mais il faut aussi se dire que les racistes sont très bruyants, mais qu'il y a une majorité silencieuse qui est prête tout simplement à mettre de l'argent pour regarder quelque chose qui les divertit. Parce que le but du cinéma, en premier lieu, c'est quand même de divertir. C'est pas de faire une représentation strictement politique de la population, mais de faire en sorte que tout le monde ait le droit de se voir sur un écran.
Eh bien, merci beaucoup, Roca Diallo, d'être venu dans le studio de Clap aujourd'hui. Pour débattre, voilà, pour réfléchir avec nous sur cette question de la représentation des Noirs sur grand écran.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Et je rappelle donc la sortie en DVD, VOD cette semaine de Tout simplement Noir, le film de Jean-Pascal Zadi, qui vaut le coup d'être vu ou revu. Je ne sais pas si vous l'aviez vu au cinéma en juillet quand il était sorti, mais en tout cas, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de Clap. Ce sera le questionnaire Les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Johan Sfar qui a accepté de nous confier ses souvenirs de cinéma. À tout de suite.
Europe 1.